Mémoire d'eau. Une vague à ta fenêtre, le seuil de la porte ouverte, s'écaille en galets couleur de sable. Une voile dans la tempête du verbe, à contre-courant, tu apprivoises chaque sentier dans l'insoutenable mépris de la raison livide. Et tu dis juste pourtant, il coule parfois comme une rivière sous nos manteaux de solitude. Mémoire d'eau, Hafid Saïdi. Hafid Saïdi, donc dans les studios de Canal Sud avec nous aujourd'hui. Et donc en compagnie de Hafid pour parler de ses poèmes, de ses écrits aussi, puisque de ses écrits qui en tout cas touchent plus à la sociologie, à l'ethnologie, à toutes ces choses-là. On va revenir un petit peu plus en détail. Bonjour Hafid déjà.
Bonjour.
Et bienvenue, tu étais venu il y a quelques semaines avec Rachida House pour parler de tous ces sujets-là, des écrits de Rachida House. On n'avait pas beaucoup eu la parole par faute de temps, et du coup on souhaitait t'inviter déjà, donc bienvenue à Canal Sud.
Merci.
Hafid, toi tu es docteur en sociologie, toulousain, tu as été chargé d'enseignement à l'université Toulouse 2, si
oui.
Je dis pas de bêtises,
oui.
Au MIRAI, en socio et en psychologie également.
Oui.
Et puis tu as contribué aussi, enfin tu contribues toujours à la formation de moniteur éducateur.
Non, ça, non, c'était il y a quelques années.
Il y a quelques années. Ouais. Mais tu travailles toujours avec des personnes, des étudiants en EDUXP, c'est ça?
Non.
Non.
De temps en temps, je reçois des étudiants par le biais d'autres profs de la fac qui me les envoient.
D'accord. Okay.
Et voilà, discuter sur des thématiques diverses. Et, voilà.
Très bien, donc déjà, c'était en 2003, ça te remonte déjà à 12 ans, tu avais signé un livre qui s'appelle « L'immigration en question », une étude sociologique, et puis en 2010, « Vent nocturne », donc là déjà, c'était de la poésie, donc
voilà.
Un tournant,
ouais.
Et puis là, très récemment est sorti « Exil et délivrance », pareil, de la poésie également,
oui.
Et puis retour à des choses plus scientifiques, plus concrètes, dans quelques semaines, mois, avec la parution de Banlieue au pays des merveilles.
Tout à fait.
Alors sur quoi on revient? Déjà sur tes premiers livres, l'immigration en question, déjà comment ça t'est venu d'écrire et de quoi ça parle précisément?
Alors l'immigration en question, c'est toute une étude théorique, je dirais, qui... Suite à ma thèse de doctorat, j'ai dit je vais faire un livre.
D'accord.
Bon, bien ensuite, j'ai tenté de vulgariser, plus ou moins. Mais en fait, ça reste quand même un livre de théorie sociologique. Hein. Et là, j'ai voulu, par la suite... oui, bien sûr, l'immigration en question, jeu social et enjeu idéologique, c'était une thèse... concernant les phénomènes identitaires, comment se construisent les phénomènes identitaires à partir de l'immigration nord-africaine en France. Donc. Et bien sûr, j'ai parlé de beaucoup de concepts, de socialisation, d'acculturation, etc., de notions de communauté, d'intégration, d'exclusion, bon, enfin, tout ce qui est sujet relativement bateau, mais en fait, c'était pas de... Parce qu'en fait, en sociologie, on a presque tout étudié sur ces questions-là, mais après, c'est des manières de dire, de penser les phénomènes. Donc, il s'agit d'une question purement méthodologique.
C'est important, quoi, ces manières de dire aussi, les manières d'exposer... Enfin, tu parles,
oui.
Je sais pas, par exemple, là, tu parles juste à l'instant d'immigration nord-africaine, je sais pas si tu emploies le terme de Maghreb ou...
Eh bien, justement, dans le livre, j'ai une partie où bon, je récuse un peu cette notion de Maghreb. Pour moi, c'est une fixation, c'est une notion plutôt idéologique. Bon, déjà, on sait qu'il existe l'Afrique du Sud, pourquoi pas l'Afrique du Nord? Parce qu'entre... tous ces pays qui, depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, donc l'Égypte fait partie aussi de l'Afrique du Nord, il y a une diversité, effectivement, mais puis il y a une forme d'homogénéité aussi culturelle, au sens global du terme. Voilà. Je préfère le terme d'Afrique du Nord, puis voilà.
D'accord. Donc ça, c'était l'immigration en question, paru en 2003, ça commence à remonter. Tu parlais d'intégrisme que tu évoquais dedans, déjà en 2003, là on y est toujours, ça parle toujours de ça. D'ailleurs, ça en parle beaucoup, peut-être un peu de...
C'est-à-dire que dans le premier livre, je parlais davantage de phénomènes, enfin de communauté, communautarisme, c'est-à-dire le fait communautaire comme phénomène d'inscription sociale, comment les communautés... apparaissent dans des rapports dialectiques entre le global, je dirais, le particulier, et comment s'inscrivent justement à travers des représentations, surtout à travers des représentations, des formes sociales nouvelles. Hein. Mmh. Et ça, je l'avais déjà écrit en 2003, et puis on peut aussi, je pense que c'est toujours d'actualité, parce qu'on voit des phénomènes religieux qui ressurgissent de façon tout à fait différente, avec d'autres outils, idéologies, hein, ouais. Voilà, en même temps. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un livre de théorie. Hein. Puis, par rapport au prochain livre de sociologie, « Banlieue au pays des merveilles », de l'ethnicisation des problèmes sociaux, piège politique de l'identité nationale, ça relève davantage de l'essai que de la sociologie pure. Même d'accord. Si je parle un peu de sociologie, c'est plutôt un essai. Hein. Mm. J'ai voulu sortir un peu de la théorie théoricienne.
Pure, quoi.
Ouais. Voilà. C'est... Et puis...
C'est de la vulgarisation, quoi, comme tu disais aussi de ton travail de thèse, quoi.
Ouais, voilà. Et puis, c'est aussi une... Ce livre, Banlieue au pays des merveilles, c'est aussi... Une introduction au prochain, si ça me permettrait de d'écrire un autre livre, mais je m'intéresse maintenant à la ville, ce que sera la ville de demain.
D'accord.
Donc ça serait ce livre-là, ce serait donc une introduction à un prochain livre peut-être, hein, je ne sais pas, parce que moi changeant, je ne sais pas si c'est ce que je vais faire ensuite.
Ok, bon, ça, bon, donc du coup on parlait de l'immigration en question, et puis plus tard, donc 7 ans après la parution de l'immigration en question, eh bien il y a eu Vent nocturne, donc Poésie des vents nocturnes, qui est paru donc aux imprimeries Maury. Alors là t'as, du coup t'es passé à la poésie, quoi.
Tout à fait. Bien, ce que j'ai choisi de faire, c'est un livre de sociologie, un livre de poésie, un livre de sociologie, un livre de poésie. Mais là, j'ai fait un livre de sociologie, un livre de poésie, un livre de poésie, puis un livre de sociologie. Tout simplement parce que j'aime bien passer d'un domaine à un autre, sachant pour autant que ma sociologie, enfin celle à laquelle j'adhère, hein, qui est une sociologie pour moi d'action, nous, avec une autre forme de poésie contemporaine, enfin que je qualifie de poésie contemporaine, qui est aussi une poésie d'action et d'engagement. Donc j'essaie de relier tout ça. Les poèmes que j'écris sont des poèmes avec un œil de sociologue et d'anthropologue, je dirais. Ma méthode préférée, c'est l'anthroposociologie, en fait. Hein. Ma thèse, elle a été basée sur des enquêtes, etc., mais ouais. Pas des enquêtes qui reposent sur un substrat statistique, forcément, bien sûr. Il y a un peu de stats, mais moi, je travaille sur les formes sociales, donc à travers mon propre imaginaire, mes représentations à moi, même si... Elles sont bien sûr, elles sont plurielles, mais elles se croisent aussi, elles s'entremêlent. Eh bien, j'ai voulu décrire des situations. Hein. Bon, le premier livre de poésie, Vent nocturne, suivi de la lune comme un cercle, c'est surtout le thème de la solitude.
D'accord. Ouais.
Qui m'a inspiré. Et puis, voilà, et à travers le dernier... Exil et délivrance, c'est toujours aussi au niveau des situations que je peux observer que j'ai voulu partir du thème des exils, exil intérieur, etc. et des délivrances, c'est-à-dire des espérances, finalement. Mmh. Voilà.
D'accord, donc ça c'est le tout dernier livre là, qui vient de sortir il y a un mois, deux mois,
ouais.
Quelque chose comme
ouais.
ça, qui s'appelle Exil et délivrance. Alors déjà, Vent nocturne avait été traduit en espagnol, tu me disais ça en
non, c'est Exil et délivrance
c'est Exil et
qui
délivrance.
Est traduit en espagnol. Et Vent nocturne, on m'a demandé une réédition, parce qu'il y a plein de gens d'accord. qui m'ont demandé, donc, et celle qui m'a traduit Exil et délivrance, Florentia.
Ouais.
est venue hier, par exemple, à la pizzeria. On parlera de la pizzeria.
On parlera de la pizzeria tout à l'heure. Ouais, un petit peu.
Elle m'a dit, tiens, j'étais traduit l'autre bouquin. Et c'est une fille qui traduit très, très, très bien. Et puis, c'est un exercice. Hein, c'est comme un jeu pour moi. Tu vois, on s'amuse.
À écrire des poèmes, tu dis ?
Ouais, ouais. Moi, tu sais, ça me permet de rester un peu, de rester proche des situations qu'on peut observer, qu'on peut... voilà, c'est tout. Hein. Je cherche rien d'autre que de m'occuper aussi de cette manière, quoi.
Et puis dire aussi, peut-être plus profond, enfin, parler plus peut-être des ressentis, des sentiments que dans un livre de sociologie où on parle plus où on va décrire des situations, on va analyser des idéologies, des politiques, des situations sociales. La poésie, c'est quand même politique.
Ah oui, moi c'est une poésie d'engagement et de combat, c'est une poésie d'action. Effectivement, je suis pas dans le politiquement correct.
Dans
je suis plutôt dans le renversement, si tu veux, des idées reçues, dans le renversement des logiques qu'on veut absolument nous faire passer. Tu vois, par exemple, dans un de mes livres, je cite Deleuze quand il dit « les drapeaux, les nations, les armées, les banques font bander beaucoup de gens. Une machine révolutionnaire n'est rien si elle n'acquiert pas au moins autant de puissance, de coupure et de flux que ces machines coercitives. » Et ça m'a plu chez Deleuze. Tu vois, tout comme Louise Michel, quand elle dit « il faut bien que la vérité monte des profondeurs du peuple, puisque d'en haut ne viennent que des mensonges. » Bon, je m'inspire un peu de quelques citations que j'intègre dans des paragraphes qui me semblent très liés par rapport à des citations de ces deux grandes personnes.
D'accord, ok. Donc, Exil et délivrance qui vient de sortir. Je crois que tu m'avais dit que vous aviez organisé des rencontres aussi pour peut-être lire des extraits de poèmes ou comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Ça a l'air d'avoir été riche, quoi, ces rencontres-là autour de ce livre, autour de la sortie de ce livre.
Ben, on a fait une lecture à partir de mes poèmes, mais il y avait d'autres lecteurs et lectrices aussi.
D'accord.
Des musiciens. C'était super, c'était à la pizzeria, donc dans l'antre de la pizzeria qui s'appelle donc Porte de la Fontaine, qui est notre espace de poésie, de spectacle. Et ça s'est très très bien passé. J'ai fait beaucoup de signatures cette fois-là. Et il y a eu un moment de partage extraordinaire entre les lectrices et les lecteurs, le public. Et ça restera un bon souvenir pour moi. Que de rendre hommage finalement aussi à la poésie contemporaine, chacun a sa poésie aussi. Et voilà, et la poésie pour moi, comme je l'ai dit souvent, il y a la sociologie, ensuite il y a la poésie. C'est très lié, mes travaux sont très complémentaires, je dirais, les uns par rapport aux autres.
Ouais.
Et la poésie est une arme de combat, comme aurait pu dire Paco Ibáñez, hein, si quelqu'un ne l'a pas dit avant lui. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Hein.
Très bien. Ok, et donc Exil et délivrance sera traduit également en espagnol, tu en parlais.
Oui, non, celui-là il est traduit.
Il est traduit.
C'est Vent nocturne suivi de la lune comme un cercle pour cette prochaine réédition.
Ouais.
Puis il sera joli le livre, je pense, parce que c'est une fille qui est artiste peintre qui m'a dit j'ai beaucoup aimé un de tes poèmes et je t'offrirai quelques peintures qu'on pourrait intégrer
dans ton
livre. Ouais.
Ok.
Et voilà, c'est...
Pour une réédition, ouais, c'est un chouette cadeau.
Ouais.
Ouais, c'est un chouette cadeau. Et donc du coup, tes deux premiers livres, il y avait eu sociologie et poésie. Voilà. Et là, les deux qui viennent, c'est poésie et sociologie.
Voilà.
On en vient à Banlieue au pays des merveilles. C'est presque un titre poétique.
Presque, ouais.
Presque.
D'ailleurs, à ce titre, il y a un ministre qui voulait me faucher le titre.
Ah, c'est qui ce ministre,
ouais.
Là.
Alors, une fois, j'étais à une réunion avec Bourdin. Hein, mm-hmm. Bourdin de... Comment ça s'appelle son émission là du matin, là, Jean-Jacques Bourdin.
Ouais, ça, je pourrais pas t'aider là-dessus.
Bref, il passe tous les matins. Il y avait le ministre Azouz Begag, dont je connaissais ses livres. Et puis, on s'était déjà croisés à Lyon. Et puis, j'avais parlé de Bagneux au Pays des Merveilles. Et puis, un jour, on m'appelle au téléphone, on me dit, tiens, le ministre a cité Bagneux au Pays des Merveilles, mais à son compte. Mais
d'accord.
Ça m'a fait rire.
Ouais, bon.
Et j'ai dit, ben ouais, mais... J'avais d'ailleurs parlé de ce livre avant qu'il ne sorte. C'était durant une conférence internationale avec les Américains et les sociologues français.
D'accord.
C'était d'ailleurs à l'Institut catholique. Hein. Pour te dire, il y a des espaces aussi où on peut parler de problèmes autres que ce qui est enseigné dans cet espace lui-même.
D'accord. Voilà. Et donc, Banlieue au Pays des Merveilles, d'où il est né un peu ce bouquin? Tu me parlais justement, c'était des enquêtes qui avaient été menées avec les étudiants dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, à un moment je donnais des cours au CMEA, pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et je formais des gens à l'anthropologie, la sociologie et surtout la méthodologie, donc les travaux d'enquête qui faisaient partie de leur programme. Dans les CMEA, c'était des EDUCSP, enfin, en vue de l'obtention de leur diplôme d'éducateur spécialisé.
Ouais.
Il fallait qu'ils mènent des enquêtes, donc j'ai dirigé pas mal de travaux sur divers quartiers de Toulouse, le Grand Mirail, Ampalo, Bagatelle, etc. C'était sur l'ethnicisation des problèmes sociaux, enfin, des rapports sociaux plutôt.
Des rapports sociaux.
Oui. Et je leur ai fait mener des enquêtes, donc il fallait les former rapidement à la mise en place de méthodes de recherche. Mmh. Donc, c'était des gens qui ont vachement bossé. Il fallait qu'ils fassent ça en moins de 4 mois. Ils m'ont rendu donc des dossiers très, très bien faits. Et à partir de ce qu'ils m'ont rendu, j'en ai fait, bien sûr, d'abord la critique, puisqu'ils passaient pour soutenir leur truc, leur mémoire. J'ai revisité tout ce qui avait été écrit, les sources de leurs chiffres, etc., etc.
D'accord.
Et puis, j'en ai fait un livre donc, qui s'appelle « Bagneux au Pays des Merveilles, de l'ethnicisation des problèmes sociaux au piège politique de l'identité nationale ». Bon, ça, j'ai rajouté une partie sur cette fameuse question de l'identité nationale.
Est-ce qu'on peut venir peut-être un petit peu justement sur ce sujet-là, quoi, l'ethnicisation des rapports sociaux? Est-ce qu'on peut l'expliquer un petit peu en quelques mots, quoi?
Oui, rapidement. C'est-à-dire que au départ, je donne quelques définitions de l'ethnicité. Avant de parler d'ethnicisation, qui est un processus toujours. Hein, l'ethnicité, l'ethnie, etc. D'où ça vient. Voilà. J'ai voulu voir comment, à partir de zones résidentielles bien déterminées, comment on a pu observer par exemple, très concrètement, je prends le quartier de Bellefontaine.
Ouais.
Mais ethniquement, il est visible. C'est sur ces formes de visibilité. Il y a plusieurs nationalités, etc. Mais là, je n'ai pas voulu le faire au niveau de l'immigration, mais des classes populaires. Voilà. Et j'ai démontré comment, effectivement, il y avait des processus d'intégration dans des systèmes d'exclusion.
D'accord.
Ce que Valls, le fameux Valls, appelle apartheid. Mmh. Et... ce que Fabius dit, il n'y a pas si longtemps que ça, parle de ségrégation. Or, l'un et l'autre se trompent. L'apartheid, c'est plutôt l'Afrique du Sud. To be apart, c'est vraiment sud-africain. Et puis, la ségrégation, c'est nord-américain, l'histoire de tout ça.
Bien
donc,
sûr,
il faut respecter un peu les histoires.
Pas confondre aussi, quoi.
Voilà. C'est mais important. Je suis... quelqu'un qui recherche un peu de rigueur scientifique par rapport au concept, etc. Et même si c'est généreux de leur part de reconnaître qu'il y a quand même des formes d'exclusion,
ouais.
Mais moi, je parle davantage d'expulsion sociale. Après l'exclusion, c'est un truc terrible, c'est l'expulsion sociale. Voilà. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de classe populaire, tu vois, et de quartier populaire, etc. Et la banlieue, on se trompe. Et puis le rôle des associations aussi. Je parle dans ce livre, je regrette, mais il y a des associations, ce sont plutôt des sourires tiroir-caisse qui font aux subventionneurs, ouais. C'est-à-dire les institutions, etc. Et ça mériterait aussi de faire des études plus approfondies. Mais je vois qu'il y a des associations qui jouent un peu le et qui sont indispensables justement par rapport à la notion de pouvoir local déjà. Tu sais, elles sont manipulées, etc. Mais souvent, elles le veulent bien, moyennant rémunération, quoi.
Tu peux rappeler le sous-titre de Banlieue au pays des merveilles, donc de l'initiation des rapports
sociaux, piège politique de l'identité nationale.
Voilà. Piège politique de l'identité nationale, on veut peut-être y revenir aussi sur cette deuxième partie, piège politique de
bien
l'identité
sûr.
Nationale. Là, on l'a vu, là, surtout depuis janvier, la notion d'identité nationale a pris tout son pseudo-sens, en tout cas, avec les massacres qu'il y a eu, et l'unité nationale qui a été mise en avant par les dirigeants pour essayer de justifier une politique d'exclusion, justement. Peut-être on peut en dire quelques mots là sur ce. Est-ce qu'il y a vraiment un tournant ou est-ce que c'était déjà bien en amont déjà à ces massacres-là ?
Bien sûr, mais là, disons qu'il y a des stratégies de pouvoir qui font que justement la préoccupation première des hommes politiques, c'est de monter dans les sondages. On a vu le président de la République, François Hollande, durant cette triste période donc, de massacre, ben, il a grimpé de 20%. Hein, voilà. Et puis, en fait, quand on parle, lui, il parlait d'unité nationale. Mais en fait, à travers cette notion d'unité nationale, c'est très trompeur. Il faut démystifier les choses. Moi, je pense qu'il voulait davantage parler d'identité nationale. Ensuite, il y a tout un jeu de stratégies politico-politiciennes qui font que, justement, il y a davantage de désordre dans la pensée, je dirais, hein, puisqu'il y a des contradictions, etc. Mais en fait, c'est toujours pour sauver l'ordre. Hein. Alors, cette notion entre ordre et désordre, il faut en tenir compte.
Mmh. D'ailleurs, le thème de l'identité nationale, à la base, il était pas, c'était pas François Hollande qui le portait, mais plutôt Nicolas Sarkozy, d'ailleurs.
Tout à fait, bien sûr. Hein, durant la période sarkozyste, avec ses camarades, portefeuille, toute la clique, hein, toute cette kermesse, bien sûr. Et puis là, on sent, dans des périodes de crise, comment l'autre... C'est-à-dire l'autre, ce que je dis, l'étranger, le métèque, comment on arrive à les désigner, quoi. Et quand on désigne, forcément, on fixe et on stabilise. Mmh. Quand on fixe, on stabilise, on exclut. Quand on exclut, on expulse. C'est un peu ma théorie.
D'accord, ok. Donc c'est tout ce lien entre justement les premiers prémices justement de cette exclusion jusqu'à l'expulsion complètement, quoi. Et l'expulsion, justement, on est toujours dans une politique quand même d'expulsion, même à proprement parler, au sens premier quoi, du mot, expulser, continuer à expulser. Je sais pas, est-ce que tu parles de cette politique de chasse aux sans-papiers aussi dans
non,
ce livre
pas non, trop non. Quand je parle plus, d'expulsion sociale, justement, créer des phénomènes de marginalité.
D'accord.
Je prends un exemple.
Vas-y.
Quand je m'intéresse à la ville, par exemple, quand on parle de développement durable, juste je fais une petite déviation. La ville n'est jamais durable. Par contre, il peut y avoir du développement durable dans la ville. Ensuite, quand on crée des éco-quartiers, etc., on crée en même temps des marginalités.
Mmh. Hein, des marginalités. Quand on crée des éco-quartiers, on
Absolument.
Crée des quartiers qui ne sont pas...
c'est simple. Voilà. Et on crée automatiquement des marginalités avec leur forme, bien sûr, de précarité, de pauvreté, d'indigence pour certains. Oui. Et donc, c'est un peu le résultat de ces mises en pratique donc, du logement social ou du logement tout court. Hein. Enfin, voilà.
Et puis, bon, il me semble que tu avais bossé donc, aussi sur l'ethnicisation des rapports sociaux de genre.
Tout à fait.
On peut peut-être en parler, ça, moi ça voilà. Me semble aussi important. Quoi, ça...
Alors, l'ethnicisation, voilà. C'est, tout à fait, ça c'était une... quand j'avais fait comme thème l'ethnicisation des rapports sociaux, ensuite on m'a proposé, donc la direction du CMEA de Toulouse, de travailler sur l'ethnicisation des rapports sociaux de genre. Voilà. Donc rapport homme-femme, la place de la, enfin, la place des femmes dans, mais, dans telle ou telle communauté, etc. Mm-hmm. Et donc il y a eu des travaux qui ont été faits par ces étudiants que j'encadrais. Et il s'agit toujours finalement de créer des problématiques où parfois elles n'existent même pas. Hein, elles sont imaginées, etc. Enfin, des situations qui sont imaginées. Hein. Et bien entendu, ensuite, faut l'intégrer dans les rapports sociaux de genre au niveau global. Hein. Voilà, ça, c'est, y a des professeurs qui étudient ça, notamment Welser-Lang et tant d'autres. Hein. Et voilà, c'était une autre proposition qu'on m'avait faite et que j'avais essayé d'assumer.
Et donc là-dessus, il y avait eu une parution ou quelque chose ?
Non,
juste ouais, travail universitaire. Quoi.
Ouais.
Ok, très bien. Donc, banlieue au pays des merveilles, la sortie, c'est quand ?
Dans 2 mois.
Dans 2 mois ?
Ouais.
On pourra se le procurer où ?
Ben, tu sais, moi, je me méfie des éditions, des grandes maisons d'édition, comme le premier, j'avais fait dans une grande maison d'édition. Moi, maintenant, je veux travailler au niveau local.
D'accord.
Donc, moi, je le fais à compte d'auteur, d'abord, hein, sur 200-300 livres, 400. Et,
à compte d'auteur, ça signifie quoi ?
Ça veut dire que je paye l'imprimerie.
D'accord. Donc, c'est pas une maison d'édition, tu payes l'imprimerie pour un...
Exactement. D'accord. Et puis, je veux travailler au niveau local. Je n'ai aucune prétention nationale ni quoi que ce soit. Mmh. Même si j'ai fait quelques conférences internationales, ça veut rien dire, tout ça. C'est-à-dire que... Tu sais, les applaudissements, je m'en fous, moi, complètement. Ce que je cherche, c'est d'apporter ma pierre au niveau, à un niveau géographique. Pour moi, c'est Toulouse et sa région, hein, voilà. Et rien de plus.
À une échelle qui soit aussi compréhensible, quoi, une échelle humaine.
Voilà, et participer justement à la dynamique des solidarités toulousaines. Hein, c'est parce que c'est vrai que Toulouse est une ville solidaire. Et comment les réseaux de solidarité fonctionnent, c'est important. Hein. Et donc, amener ma pierre à cet édifice de la solidarité. Quoi.
Eh ben, on va peut-être parler de tout ça, de la solidarité toulousaine et du réseau toulousain. On se fait une petite pause musicale, on parlera de la pizzeria Belfort après, ça pourrait peut-être être le prétexte à parler de tout ça.
Ouais.
On se retrouve juste après, donc Tony Gatliff, Exil, justement.
يا قلبي يا قلبي عيتني عيتني والله يهدي شيف ورطاك سياي ويلي ويلي مانا سي صرنا دفنا ويلي ويلي مانا سي صرنا دفنا سي صرنا دفنا يا راس طيفة يا حمام السخنة ويلي ويلي مانا يا رانا توحشنا يا شيف ورطاك سياي ويلي ويلي مانا سي صرنا دفنا ويلي ويلي مانا
Retour dans les studios de Canal Sud pour le magazine en compagnie de Hafid Saïdi, auteur, poète toulousain, notamment de l'immigration en question en 2003, une étude sociologique, Vent nocturne, un recueil de poèmes en 2010, Exil et délivrance, tout récemment sorti il y a quelques semaines, qui est sorti en 2015, et puis à venir apparaître Banlieue au pays des merveilles. Donc à nouveau de la sociologie, on parlait de la distribution de tes livres à l'échelle locale et du réseau toulousain de solidarité, et justement pour parler de ça, quoi de mieux que de parler de la pizzeria Belfort dans laquelle il y a, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'antre de la création de tes bouquins et de plein d'autres choses. Alors du coup, c'est né quand, comment, pourquoi cette pizzeria et cet espace aussi, quoi? C'est pas juste une pizzeria, quoi.
C'est pas juste une pizzeria. C'est un lieu donc d'expression libre avant tout, ouais. beaucoup de personnes issues de mouvements collectifs et d'actions collectives utilisent les locaux de la pizzeria, proposent des ateliers, des ateliers de réflexion, ateliers d'écriture, théâtre, slam, poésie, également des discussions autour de l'actualité. Donc, y a plein de gens qui proposent des réflexions à partir de thématiques actuelles. Et je crois que c'est intéressant d'échanger dans un cadre de convivialité, donc, qui est cette fameuse pizzeria. Au départ, on avait opté avec Zoubir, le camarade Zoubir, pour l'autogestion. Comment on peut arriver à... Notre but n'était certainement pas de faire du fric à travers cette pizzeria. Chacun paye son loyer, chacun se débrouille comme il peut, mais en fait c'était arrivé à créer quelque chose de ce que j'appelle des sociabilités, tu vois, des lieux d'échange, etc. Et puis de créer une richesse interculturelle et voire transculturelle, c'est-à-dire ce ne sont pas des cultures, quand on parle d'interculturel, j'avais enseigné ça justement à la fac, au département de psycho. Et il faut aller plus loin, il faut aller, je crois, dans une autre dynamique, un autre projet de société. Quand on parle, je voudrais revenir justement à cette question de l'identité nationale, qui est, pour moi en tout cas, ça représente, dans un premier temps, un discours construit qui apparaît non seulement en période de crise économique, mais de crise globale qui est toujours liée à la question de l'immigration. Moi, je veux dépasser tout ça, mais je voudrais montrer que c'est aussi lié à la question de l'histoire des classes populaires. La question de cette identité nationale n'est rien d'autre, finalement, qu'une supercherie d'État, en même temps qu'une escroquerie entretenue par ces appareils idéologiques, et en grande partie par la classe politique, de droite comme de gauche, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. L'identité nationale, donc, c'est alors le droit de dire que la France n'est pas monolithique. Ça, il faut le dire d'emblée, elle n'est pas monolithique, qu'il y a des pensées réelles qui rentrent dans la multiplicité, la diversité du monde, et des pensées différentes de la pensée des systèmes. Les systèmes sont toujours en train de nous persécuter quelque part. Donc cette identité nationale n'est pas une identité unique, si on le prend dans ce sens, c'est intéressant. Elle n'est pas immuable. Au contraire, à l'intérieur d'une nation, il y a des identités qui ne sont pas fixes et qui évoluent de manière constante et qui n'ont rien à voir avec la fiction et l'illusion justement de l'ultranationalisme. On le voit actuellement. Et ceci, il faut le dire de plus en plus fort. Si la classe politique veut nous entraîner dans un piège, n'oublions pas justement que la sociologie historique du politique peut nous aider à démystifier le contenu de toutes ces tentatives de s'emparer du social comme de l'identitaire. Attitude donc qui nous annonce un nouveau pas vers le totalitarisme. On oublie ça, il y a quelque chose qui se construit.
Mais là on le sent bien quand même.
Tout à fait. Et alors là on nous propose une idéologie plutôt, une idéologie qui est terriblement aliénante, quoi. C'est ça, c'est celle justement de cette espèce de d'homogénéisation de la pensée. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais en venir là, et à partir de cette réflexion, justement, comment mettre en œuvre dans un espace culturel qui est la pizzeria, ça a été donc de créer justement des libertés d'action et des libertés de création. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en est venu à créer des espaces. En fait, c'est pas nous, c'est tout le monde. Les gens se proposent, s'inscrivent sur un tableau, tiens, moi j'aimerais faire ça, ça, et puis voilà. Et je crois que ça marche. Voilà.
Et puis c'est au milieu du quartier Belfort. Quartier Belfort, quand même, y a un passé, il y a un présent, et ils essaient de construire un futur aussi.
Voilà. Ils essaient justement. Bon, y a une association qui s'appelle Étoile de Belfort, qui est très dynamique. C'est les gens du quartier.
Ouais.
Et donc c'est un peu. Bon, ils sont domiciliés, bien sûr. Enfin, on va dire, on est domicilié à la pizzeria parce qu'on est membre de cette, on est adhérent de cette association.
Ouais.
Où il y a le chaque jeudi, bon, depuis, c'est la quatrième année, je crois, qu'il y a le marché nocturne de 16h à 21h. Et il y a une vie de quartier, il y a tout le temps de la musique sur la place.
On sent que c'est vivant, hein, c'est le jeudi soir, là.
Oui, oui, oui.
On sent qu'il y a de la vie.
Et puis, on voit que les gens sont... heureux de construire du lien social.
Ouais.
Hein, le voisin, c'est important. Il y a une vie de voisinage et de complicité. Hein, et c'est ce que j'appelle des sociabilités, encore une fois. Hein, c'est ce qui est important. Donner du sens donc, à la quotidienneté de vie de gens, donner du sens avec chacun ses problèmes, etc. C'est sûr. Mais je crois que à travers des actions collectives, il y a des choses qui se font. Quartier Belfort, qui est historiquement réputé pour être un lieu de prostitution, de drogue, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Et puis voilà, chacun a sa place. Hein, voilà, que ce soit les prostituées et tout ce que vous voulez qui est à côté.
Et du coup, là, sur Belfort, il y a des projets immobiliers.
Voilà, justement avec la nouvelle ligne à grande vitesse, là, LGV, hein,
ouais.
Je crois qu'il y a des projets de réaménagement du territoire, comme on va dire. et puis, d'ici 10-15 ans, bien entendu... On ne sait pas, si tu n'as pas d'argent, tu n'habiteras pas dans ce quartier. Quoi.
Ouais, hein, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé.
Exactement, ouais. Voilà.
Ok, eh bien, à moins que tu as peut-être quelque chose à rajouter. Il y aurait mille choses. Hein, mais...
Oui, il y a plein de choses. Hein. On pourrait discuter beaucoup sur toutes ces questions, un peu plus longtemps en tout cas. Je voudrais tout simplement dire que demain, après-demain, on reçoit Nicole Rieux, ainsi que Marie-Christine Descouard. Nicole Rieux, qui en 75, elle a représenté la France à Eurovision à travers une chanson « Salut à toi l'artiste ». Et là, c'est au tour d'Olympe de Gouges. Ça s'appelle le spectacle de demain et d'après-demain, puisqu'elles vont jouer deux soirs consécutifs à la pizzeria. C'est « Olympe, réveille-nous ». Voilà, bon, c'est donc « Olympe de Gouges » a été... Bon, il y avait la constitution des droits de l'homme, c'était la constitution des droits de la femme. Voilà, la déclaration des droits de la femme. Et ça lui a coûté sa tête. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Et c'est un peu un hommage au combat des femmes. Et je crois que c'est intéressant de les écouter. Enfin, je sais que pour vendredi, c'est complet. J'ai dit, il nous reste quelques places.
Donc pour réserver, c'est à la pizzeria directement ?
Voilà, okay. Pour les quelques places qui restent.
Pizzeria qui est juste place Belfort, c'est le nom de la rue, c'est quoi ?
2 rue Bertrand de Borne.
Bertrand de Borne, voilà, mais c'est à l'angle de la place Belfort.
Voilà.
N'hésitez pas à y aller, dire bonjour, prendre une pizza, discuter avec les gens qui sont là. Et...
Exactement.
L'accueil est chaleureux en tout cas. Merci beaucoup Afi d'être venu à l'antenne.
Et merci de m'avoir accueilli. Clément, et à la prochaine.
Ça marche. Et puis, bah, c'est l'heure pour nous de nous quitter sur ces mots. Le magazine reprendra sa place ce soir à 19h, de 19 à 20h, sur Canal Sud 92.2, www.canalsud.net. En attendant, le programme de l'après-midi, 14h30, 15h30, La Textuelle, émission de littérature sur Canal Sud. À 18h, de 18 à 19, ce sont Les Petits Papiers en direct et rediffusés le vendredi matin de 11 à 12. Le magazine, comme je vous l'annonçais, de 19 à 20h. Et puis ce soir, on reviendra sur la programmation lors du magazine. tous les rendez-vous et ce que je vous ai annoncé et bien d'autres choses seront dans, qui n'ont pas eu l'occasion d'être dites à l'antenne ce midi, seront dans le magazine de ce soir, notamment la situation des femmes à Calais, un petit retour également sur le festival du Genepi, le festival Tollart et sa programmation bien fournie. Et puis les traditionnelles annonces militantes et quelques annonces culturelles très certainement, agrémentées de quelques musiques. Donc ce soir, 19h sur Canal Sud. On aura l'occasion également de reparler du festival Ciné Latino en compagnie de Thierry dans les magazines, mais seulement le midi. Donc ce sera demain midi, aux alentours de midi et demi jusqu'à 13h. Et puis également vendredi, donc chaque jour de la semaine, on parle du cinéma latino avec les interviews des réalisateurs que Thierry aura rencontrés d'ici là. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi sur Canal Sud. À bientôt et bonne écoute.